Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM. Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. C'est toujours depuis mon bureau que je regarde notre monde, le comparant à celui des siècles passés, et en particulier à celui du 19e siècle. C'est ma familiarité avec ces mondes qui m'a permis de ne pas tomber dans les modes, les courants, les idéologies et le conformisme, tant dans ma vie professionnelle que sociale ou familiale. Mais cette liberté se paie cher. Très cher, car notre société n'admet pas la remise en cause de sa propagande.
What you looking for? The same thing. It's a new thing. Check out this I bring. Uh-oh, the road below the level, cause I'm living low next to the bay.
Come on!
Turn up the radio. They're claiming I'm a criminal. But now I wonder how. Some people never know. The enemy could be the friend guardian. I'm now a hooligan. I rock the party and clear all the madness. I'm not a racist. Preach to teach the
cause some they never had this.
Number one, never wanna run about the gun. I wasn't licensed to have one. The minute they see me, fear me. I'm the epitome, a public enemy. Used, abused, without clues. I refuse to blow a fuse. They even had it on the news.
Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype.
Yes, was the start of my last jam. So here it is again, another death jam. But since I gave you all a little something that I knew you lacked, they still consider me a new jack. All the critics you can hang on my hold the rope, but they hope to the Pope and pray it ain't dope. The follower of Farrakhan, he'll tell me that you understand until you hear the man. The book of the new school rap game, writers treat me like Coltrane, insane. Yes to them, but to me, I'm a different kind. We're brothers of the same mind, unblind, caught in the middle end, not surrendering. I don't rhyme for the sake of riddling. So claim that I'm a smuggler. Some say I never heard of ya. A rap burglar. False media. We don't need it, do we?
It's fake, that's what it be to you. Dig me. Yo, Terminator X. Step up on the stand and show these people what time it is, boy. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype.
Don't believe the hype, it's a sequel. As an equal, can I get this through to you? My 98 booming with a trunk of funk. All the jealous punk can't stop the dunk. Coming from the school of hard knocks. Some perpetrate, they drink Clorox. Attack the blacks because I know they lack exact the cold facts, and still they try to Xerox. The leader of the new school, uncool. Never played the fool, just made the rules. Remember there's a need to get alarm. Again I said I was a time bomb. In the daytime, radio scared of me, cause I'm mad, plus I'm the enemy. They can't come on and play me in prime time, cause I know the time, plus I'm getting mine. I get on the mix late in the night. They know I'm living right, so here goes the mic sight. Before I let it go, don't rush my show. You try to reach and grab and get elbow. Word to her, yo, if you can't swing this, learn the words, you might sing this. Just a little bit of the taste of the bass for you. As you get up and dance at the LQ, with some denied defiant, I swing polos. Then they clear the lane, I go solo. The meaning of all of that, the media is the whack. As you believe it's true, it blows me through the roof. Suckers, liars, give me a shovel. Some writers I know are damn devils. From them I say don't believe the hype.
Yo Chuck, they must be on a pipe, right?
Their pens and pads I snatch cause I've had it. I'm not an addict, fiend if for static. I see their tape recorder and I grab it.
No you can't have it back, silly rabbit.
I'm going to my media assassin, Harry Allen, I gotta ask him.
Yo Harry, you're a writer, are we that tight?
Vous venez d'entendre Public Enemy, Don't Believe the Hype. La propagande a acquis ses lettres de noblesse pendant la Première Guerre mondiale. la propagande s'adresse à tous. Aux citoyens du pays, pour les aider à garder le moral, aux neutres, pour les gagner à la cause, et à l'ennemi, pour le démoraliser et tenter de créer des dissensions. On remarque au passage qu'en 2024, rien dans cette définition de la propagande n'a changé. En 1914, la propagande passe essentiellement par le journalisme. Écrit, cela va de soi. Quelques photos trafiquées et le cinéma muet viennent compléter la presse écrite, mais assez sporadiquement. Dès le début de la guerre, l'Allemagne avait créé une agence de propagande qui donna à l'Angleterre l'idée de faire de même. Et elle recruta des écrivains comme Thomas Hardy, Conan Doyle, Rudyard Kipling. La France, quant à elle, promulgua dès le 5 août 1914 une loi réprimant les indiscrétions de la presse en temps de guerre. Seules pouvaient être publiées les informations fournies par le gouvernement. Et en 1916, fut créée la Maison de la Presse dans laquelle se trouvait le service de propagande. Et puis, il y eut les écrivains qui magnifièrent la guerre, comme René Benjamin ou Henri Bordeaux, pour ne citer qu'eux. J'avais tâché à rendre hommage à la génération de 20 ans qui s'offrit, comme notre Iphigénie, au sanglant sacrifice pour que les destins nous fussent favorables. Écrit Henri Bordeaux dans Trois Tombes, oubliant que cette génération de 20 ans ne se sacrifia pas, mais fut sacrifiée par les propagandistes de guerre. Au pays de l'oncle Sam, Charlie Chaplin, le sympathique Charlot, ne s'engagea pas, mais réalisa des films de propagande pour promouvoir les obligations d'État, alla faire le pitre sur Wall Street ou à Washington pour inciter les gens à souscrire à ces dites obligations. Et en 1918, il sortit son film Charlot soldat, qui lui permit de s'enrichir encore plus. Quelques petits malins faisaient circuler une chanson. La lune brille sur Charlie Chaplin, ses bottes ont craqué, pas assez cirées. Et son petit pantalon flottant a besoin d'être avaudé avant qu'on puisse l'expédier aux Dardanelles. Il prit cela au sérieux, le Charlot, et la panique envahit celui qui faisait la propagande pour que les autres partent en guerre. Il y aurait tant à dire encore, mais l'article du journal Le Miroir, qui voulait faire croire que les obus allemands ne tuaient pas, suffit à résumer la propagande de guerre. D'ailleurs, cela me renvoie aux 330 missiles iraniens qui ont été arrêtés à 99%, ou aux obus russes qui sont obsolètes puisqu'ils datent de l'ère soviétique, ou encore aux Palestiniens qui s'auto-bombardent et s'auto-affament. Et souvenons-nous des journalistes devenus pour la cause de fins stratèges qui affirmaient, le plus sérieusement du monde, que les Russes n'avaient pas de radio dans leurs chars, qu'ils ne pouvaient pas se repérer sur les routes car les Ukrainiens changeaient les panneaux indicateurs de place, qu'ils se battaient avec des pelles, sans uniforme et sans chaussures. Si ce n'était pas si dramatique, j'en rirais. Je me souviens de Noël 89, où sidérés nous avons assisté à l'exécution du couple Ceaușescu, que le journal télévisé diffusait de la manière la plus naturelle qu'il soit. Il fallait en finir définitivement avec l'idéologie communiste. Et c'est ainsi que fut créée la légende des charniers de Timișoara, légende relayée par les médias de l'Ouest, comme TF1, dont le journaliste sans sourciller disait « Ceaușescu atteint de leucémie, aurais-tu besoin de changer son sang tous les mois ? Des jeunes gens vidés de leur sang auraient été découverts dans la forêt des Carpates. Ceaușescu vampire ? Comment croire ? La rumeur avait annoncé des charniers, on les a trouvés à Timișoara, et ce ne sont pas les derniers. » Le magazine L'Événement du jeudi titrait « Dracula était communiste ». Voici maintenant une archive INA de France Info.
Qui les a jetés comme ça dans la fosse? C'est la police politique, c'est Ceaușescu, c'est les communistes qui ont fait ça. Abat Ceaușescu.
1989, en Roumanie, les télés du monde entier diffusent des images d'un charnier. Dans la ville de Timișoara, des corps mutilés, des milliers de morts annoncés. Mais rien de tout ça n'est vrai. Il s'agit de l'une des plus grandes affaires de désinformation mondiale du XXe siècle.
C'est la confusion la plus totale.
Une manipulation. Nous avons distordu la vérité.
Quelques éléments de contexte. En 1989, la Roumanie est gouvernée par le dictateur communiste Nicolae Ceaușescu. Droits de l'homme bafoués, pénurie de nourriture, répression violente, le monde entier s'inquiète.
La situation en Roumanie est dramatique.
La Roumanie est l'un des derniers pays du bloc soviétique. En décembre 89, le peuple se révolte, à commencer par la ville de Timișoara, à l'ouest. La répression est violente.
Je les ai vus écraser des enfants sous leurs chars. Je les ai vus entrer dans des immeubles et tuer tous les habitants.
22 décembre 1989, les journaux, les radios, les JT annoncent le chiffre de 4630 morts. Et très vite, des images choc circulent.
Les habitants ont découvert la nuit dernière un charnier.
Ceausescu est un monstre, en voici la preuve.
Ah bah, Ceausescu.
Ces images émeuvent l'opinion mondiale. En Roumanie, elles attisent la révolte et précipitent la chute de Ceausescu. Le 25 décembre 1989, il est jugé et exécuté. Un mois plus tard, le 25 janvier 1990, rebondissement.
La Roumanie maintenant avec une polémique sur la réalité des événements de Timișoara.
Il s'agissait en fait d'une opération montée de toutes pièces pour impressionner le monde entier.
Pourtant, dès le départ, des sources locales affirmaient que tout était faux.
Le docteur Hélène Boussard, médecin légiste à l'hôpital Sudecian de Timișoara, avait dénoncé la manipulation, mais personne n'avait voulu l'entendre.
Les corps avaient été volés dans des morgues et dans des cimetières. Avril 1990, à Paris, 6 mois après le scandale médiatique, Reporters sans frontières organise un colloque. La profession fait son mea culpa.
Tout le monde s'est trompé, plus ou moins, chacun à sa manière.
L'occasion aussi d'analyser les ressorts de ce raté. En Roumanie, au début de la révolte, l'information ne circulait pas ou peu. Les agences des pays de l'Est, libérées du communisme, étaient la seule source.
L'Ouest n'avait pas d'autre possibilité sérieuse que de les reprendre.
Quant à la création du faux charnier, malgré plusieurs enquêtes, les auteurs de la falsification n'ont pas été identifiés.
J'aime la façon dont les reporters se dédouanent. En 2024, qu'a-t-on le droit de dire, d'écrire, de penser en France, en cette période de propagande exacerbée ? Soutenir la Palestine ? Interdit, comme l'a prouvé notre gouvernement en empêchant la conférence de Mélenchon et de Rima Hassan sur cette question, ou en arrêtant le secrétaire départemental de la CGT du Nord pour son soutien au peuple palestinien. Sortir de l'UE et de la Troïka, déconseillé. Évoquer les effets secondaires de l'injection Covid, complotiste. Regarder des spectacles de l'humoriste Dieudonné, interdit.
Ils sont rigolés, putain. Moi, je remonte le moral à tout le monde en ce moment. Non, c'est vrai, hein, là, je vois avec mon pote Jean-Christophe, un ancien écologiste en pleine dépression nerveuse. Mais il était sur la campagne d'Eva Joly aussi. Hein. La moitié de l'équipe s'est pendue. Et non, et il vient chez moi, il dit, les Verts, c'est tous des cons. Je lui dis, calme-toi, Jean-Christophe, qu'est-ce qui se passe? Tu dis ça sur le coup de la défaite. Hein, tu vas pas remettre en cause 30 ans de militantisme, comme ça, d'un revers de la manche. Je te rappelle que toi, t'as passé combien? C'est 5 ans chez Greenpeace à te geler les couilles sur un Zodiac pour sauver 3 pauvres baleines. Il me dit, ça sera à refaire, je les buterai au lance-roquettes. Merde. Ah, j'ai dit, ouais, t'es remonté, effectivement, là. Prends du recul. Il me dit, j'ai pas de recul à prendre, Dieudonné. Pour moi, les Verts, c'est terminé. Je monte mon parti, ça va s'appeler les Gris. Tu veux en faire partie? Oh, je lui dis gris comme quoi? Il me dit gris. Gris comme le béton, gris comme la pollution, gris comme le moisi, ça te va? Je lui dis, il faut que je réfléchisse. Ah, mais t'es marrant, t'arrives ici, tu gueules. Déjà, calme-toi. Hein? Tu sais, en plus, que j'ai une femme qui est à moitié écolo, tu la connais. Hein? Elle a la main verte avec ses deux cactus. Qu'est-ce que j'y fasse? Oui, mais... On pense, on compte. Puis j'ai un perroquet qui répète tout. Baisse d'un ton, s'il te plaît. Ah, voilà. Ouais, Coco, ouais. Ouais, je suis ananas. Je lui dis quand même, l'écologie, il y a quand même des bons côtés. Je veux dire, préserver la planète pour les générations futures. Il me dit, quoi, Dieu? T'es encore dans ce délire à la con, hein? Tu veux sauver la planète? Ah! L'autre, elle a 4000 milliards d'années, la planète. Nous, on est là depuis avant-hier et on va lui sauver la vie avec un tri sélectif et 3 éoliennes. T'as pas compris qu'on se fout de ta gueule? La nature nous a déclaré la guerre. Voilà la vérité de l'eau. Regarde tous les tsunamis, les tremblements de terre. Hein, ce temps pourri qu'on a eu au mois de juillet. La nature veut notre peau. Regarde toutes les bactéries, toutes les maladies nouvelles. Tout le monde a la chiasse, tout le monde chie de la flotte aujourd'hui. Aïe, hein? Ah non, il est possédé. Il dit que la nature nous en veut. Hein. Il dit que la nature nous observe.
Il a coupé tous les arbres autour de chez lui. Hein? Ils sont une soixantaine, ils ont monté un parti, ils ont un programme de désécologie. Comment niquer la planète en 2 ans? Première mesure concrète, le tout nucléaire. Le nucléaire portatif individuel. Stylo nucléaire, savon nucléaire, chocolat nucléaire. Alors, mais c'est plein de petites mesures au quotidien, je veux dire, c'est une organisation militaire. Quand tu l'entends, par exemple, tes piles usagées, tu sais jamais quoi en faire. Tu les plantes dans la terre. Laissez couler l'eau du robinet. L'électricité à fond, nique tout le plus vite possible. Tes vidanges de bagnole, jamais dans un garage, putain. Participe, ça te coûte quoi? Tu le fais dans la nature, dans un parc, dans un jardin, chez ton voisin. Tes ordures ménagères, jamais dans une poubelle. Prends la fenêtre. À quoi ça sert une fenêtre? C'est bien pour jeter des objets. Sinon on aurait laissé un mur. Voilà, il y a une logique, faut essayer de comprendre. Tu te fais chier le dimanche, fais cramer du pneu, putain! C'est avec toutes ces petites mesures au quotidien qu'on va niquer la planète. Agissons vite, Dieu veut, tant qu'il en est encore temps.
Émettre des doutes sur l'éducation sexuelle des enfants? Réactionnaire. Penser que l'écriture inclusive n'est pas un combat féministe? Choquant. Rappeler que les résistants étaient considérés par l'idéologie dominante comme des terroristes? Apologie du terrorisme. Parler du génocide palestinien? Antisémite. Dire qu'il fait chaud en été? Climato-sceptique. Apprécier le film de Bertrand Blier, Les Valseuses, prédateur sexuel. Aller à la mosquée, islamiste radical.
A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Aller à la messe en latin, nostalgique de l'obscurantisme. S'abstenir de voter? Irresponsable, ainsi qu'a su nous le faire remarquer l'égérie nationale des punks subversifs, Lorane, le guitariste des Berruriers Noirs.
Petite réaction à vif, petite réaction du cœur. Alors face aux événements actuels, évidemment, le Front National est au second tour des, pré- des présidentielle avec presque, je sais pas, plus ou moins 8 millions de voix, ce qui est insupportable. Moi, ça fait 40 ans que je chante la diversité culturelle, l'entraide pour toutes les minorités sur la planète. Je dénonce la non-assistance à personne en danger quand on n'accueille pas les gens qui fuient la guerre. Face à la pensée unique, face au triangle infernal, Trump, Poutine, Le Pen. Franchement, je ne comprends pas que les gens puissent se poser la question de quoi aller voter ou ne pas aller voter, mais c'est incroyable. Au bout d'un moment, parce qu'après, ça sera terminé une fois que le Front National, ils sont là. Il faut voter. Ni blanc, ni s'abstenir, aller voter contre le Front National. Quitte à voter Emmanuel Macron, et alors il est où le problème? Il est comme les autres, sauf que le Front National, c'est différent. Ce sont des fascistes, ça n'a rien à voir. Donc là, et puis, arrêtons de croire que ça va être les politiciens qui vont nous apporter une solution. Soyons organisés, organisons-nous en collectif, mais faisons toujours barrage au Front National. Ça, c'est la base, ça vient du cœur. Je ne comprends pas comment les gens puissent hésiter un instant. Pensons à ce que nos grands-parents, moi, quand j'étais jeune punk, je m'en rappelle, c'est une petite anecdote, j'avais acheté des bottes allemandes, plus à Clignancourt, elles étaient à 5 francs, tu vois, je les ai pris. J'étais voir ma grand-mère qui habitait dans l'Oise, rien qu'au son, elle m'a dit enlève ça tout de suite. Je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a expliqué le son des bottes. Et bien, pour ma grand-mère, pour vos grands-mères, pour nos enfants, faisons barrage à la pensée unique. Voilà. Et même s'il faut voter Macron, ça ne me pose aucun souci. Ça ne me pose aucun souci. Franchement, parce que je ne crois pas à la politique. Ce n'est pas un homme politique qui va nous sortir de la situation dans laquelle on est. C'est nous-mêmes, c'est l'entraide. Il faut qu'on s'organise. Mais ne laissons pas le Front National au pouvoir. Ça, c'est clair. Voilà.
Je pense alors à Hannah Arendt, qui écrivait dans Responsabilité et Jugement, « Politiquement, la faiblesse de l'argument du moindre mal a toujours été que ceux qui choisissent le moindre mal oublient très vite qu'ils ont choisi le mal. » Quand on refuse la propagande des caricatures de Charlie Hebdo, facho. Dire qu'au XIXe siècle, les nombreux caricaturistes de tous bords se sont exprimés sans jamais imposer leurs idées. Chacun était libre d'apprécier ou pas. Critiquer l'OTAN et l'impérialisme américain, poutinophile, voire agent de la Russie. Voilà pourquoi Amnesty International, le 23 avril 2023, posait la question « Est-il encore possible de critiquer la politique du gouvernement sans crainte de sanctions ?» La Ve République, dont les pouvoirs sont détenus par le président au plein pouvoir, acceptait en 1978 que le cinéaste Andrei Tarkovski soit interviewé par Mouzi au journal télévisé de TF1.
Que ce miroir de Tarkovski, à qui nous devons déjà, on s'en souvient, Andrei Roublev, à qui l'on doit aussi un film qui en 1962 avait remporté le Lion d'or à Venise, c'était L'enfance d'Ivan, et à qui nous devons aussi Solaris. Cette fois-ci, Tarkovski, dans ce miroir, s'attaque à son autobiographie, en quelque sorte. On peut dire que le miroir est un film autobiographique de Tarkovski.
Oui. Oui, dans le sens le plus propre de ce mot. Je dirais même que ce film est différent de mes autres, justement par le fait que aucun de ces épisodes n'est inventé. C'est de la réalité pure et simple. Et le risque du récit de cette histoire pour nous provoque beaucoup de possibilités. Un contact avec le spectateur qui permettrait de créer la possibilité de la pénétration par chaque spectateur de son histoire à lui. Nous avons essayé de faire d'une histoire particulière, privée, et la veille de la sortie du film sur les écrans parisiens, nous croyons que cette histoire touchera beaucoup de gens. Cette guerre n'a pas effleuré que nous, mais les Français également.
Oui, Tarkovski, ce film, c'est un film dans lequel la poésie est très présente. Est-ce que vous considérez en tant que metteur en scène que la liaison caméra-poésie est une liaison utile au cinéma?
Je crois que c'est la seule liaison possible. Il me semble que les liaisons poétiques sont beaucoup plus profondes
et
donnent beaucoup plus de possibilités pour le spectateur, pour lui permettre de lire dans le film ce qui le touche davantage, ce qui touche son âme. Il y a également beaucoup plus de possibilités du contact avec les spectateurs. Bon, si on considère la poésie pas comme un genre, mais comme un point de vue sur le monde,
un état d'esprit,
ce stagne humain, oui.
Dans votre prochain film, qui sera un retour à la science-fiction, il y aura, je suppose, aussi, comme dans Solaris, une grande part de poésie. Est-ce que le regard sur l'avenir peut être poétique?
Oui, bien sûr. Uniquement poétique. Ça nous donne un espoir que le spectateur arbitrera à l'auteur. En tout cas, j'espère, en parlant de Solaris, que mon nouveau film sera moins le côté bouffonnade et sera plus poétique. J'espère.
Comment se porte le cinéma en Union soviétique en 1978?
Je crois qu'il va pas mal. Il va pas mal, le cinéma soviétique. Maintenant, on a beaucoup de films intéressants qui sont sortis. Et le fait même que mon film paraît à Paris aussi est lourd de signification. Et je crois que ça servira d'un signal au spectateur français et que ça l'intéressera dans les films qui se font chez nous. Nous avons des choses à vous montrer.
Merci Andrei Tarkovski. Je rappelle qu'il s'agit du Miroir, ce très beau film qui sort cette semaine sur vos écrans.
Un petit intermède avec la musique du film Le Miroir, musique composée par Édouard Artemiev. Avec l'orientation économique et officielle des écoles d'art et du cinéma françaises d'aujourd'hui. En 1978, l'intelligentsia française dénonçait alors avec suffisance la centralisation et la surveillance généralisée des citoyens par le KGB ou la Stasi. Alors qu'en 2024, elle ferme les yeux sur l'œil de Bruxelles. Et pour se détendre, écoutons Georges Marchais parlant du boycott des Jeux Olympiques de Moscou en 1980 par les États-Unis et par l'Allemagne de l'Ouest.
Vous n'entendez pas parler là-bas sur place de ce qui se passe en Afghanistan? C'est quand même un sujet, je le répète, qui a été à l'origine des difficultés de ces Jeux.
Écoutez, faut pas raconter des histoires, Patrice Duhamel.
C'est la dernière question, parce qu'il nous reste une minute, Georges Marchais.
Eh bien, une minute me suffira pour vous dire qu'au lendemain des Jeux de Montréal, ça a été constitué un comité en France, un comité pour le boycott des Jeux Olympiques. Et vous savez très bien, l'Humanité l'a publié d'ailleurs. J'ai cité de nombreux articles de journalistes qui, dès 1976, luttaient pour boycotter les Jeux Olympiques. Il y a des gens pour lesquels il est absolument insupportable que des Jeux Olympiques puissent avoir lieu dans un pays socialiste. Par conséquent, ce ne sont pas les événements d'Afghanistan qui ont conduit à la campagne de boycott de Carter. Pour des raisons électorales que l'on comprend bien d'ailleurs, mais aussi parce qu'ils sont inquiets de cette confrontation sportive au plus haut niveau avec des pays qui viennent de conquérir leur indépendance. Vous savez, Duhamel, j'ai assisté ici...
Il nous reste 30 secondes, Georges Marchais.
Ça suffit,
30 secondes.
Une phrase. J'ai assisté ici à un spectacle extraordinaire. J'ai vu pour la première fois, dans une piscine olympique, des Noirs qui ont nagé. J'ai vu pour la première fois une femme noire, et elle pleurait, cette femme, elle est cubaine, recevoir la médaille d'or pour le lancement du javelot. Il y a des pays neufs qui viennent ici. Eh bien, M. Carter a eu peur de cette confrontation. Et M. Schmitt s'est aligné sur M. Carter. Et Giscard en aurait fait autant si les sportifs n'avaient pas été là et si le peuple français n'avait pas été là.
Et 44 ans après,
la traversée de la Seine en grande pompe se fera sans eux. Les athlètes russes et biélorusses sont privés de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024. Décision prise à l'unanimité par le comité olympique.
La logique était très claire pour nous. Les athlètes neutres participeront à la compétition en tant qu'individus. Et, comme vous le savez, lors d'une cérémonie d'ouverture, le défilé des athlètes est constitué de délégations ou d'équipes. Et comme il n'y aura pas de délégation ni d'équipe, c'est la raison principale qui a motivé cette décision.
Accepté à condition de défiler sous bannière neutre et de ne pas avoir soutenu l'invasion en Ukraine, les participants russes et biélorusses auront leur propre drapeau et leur propre hymne. Des mesures exceptionnelles qui ne sont pas du tout du goût de Vladimir Poutine, qui les dénonçait déjà en octobre dernier.
Nous avons appris que les jeux eux-mêmes peuvent être utilisés comme un instrument de pression politique envers des personnes qui n'ont rien à voir avec la politique, comme un instrument de discrimination ethnique grossière et de fait raciste.
Politiser les jeux, c'est aussi ce que reproche le CIO aux Russes, alors que Moscou prépare une compétition parallèle, les Jeux de l'Amitié, qui se dérouleront mi-septembre en Russie. Dans un communiqué, le Comité international olympique a appelé tous les sportifs et les gouvernements à rejeter toute participation et tout soutien.
Mais revenons au début du XXe siècle. Octobre 1917 a vu la révolution russe. Rêve enfin réalisé pour des millions de travailleurs. Et pourtant, Rosa Luxembourg mettait en garde contre un pouvoir exécutif tout-puissant, éloigné des préoccupations sociales et culturelles de la masse travailleuse. Elle écrivait dans La Révolution russe « La liberté seulement pour les partisans du gouvernement, pour les membres d'un parti, aussi nombreux soient-ils, ce n'est pas la liberté. La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. » Elle allait même plus loin dans sa polémique. Ainsi, elle n'hésita pas à taxer le pouvoir de Lénine de dictature, non celle du prolétariat, mais celle d'une poignée de politiciens, c'est-à-dire une dictature au sens bourgeois. Rosa Luxembourg se battait pour une démocratie plus large et plus radicale. En 1918, elle fut assassinée. La chanson que vous allez entendre est un chant spartakiste écrit en 1919 après le massacre des spartakistes par le gouvernement allemand qui ne voulait pas voir s'installer une révolution communiste.
Spartacus, 1919, Berlin.
Pendant l'occupation, des personnalités, des citoyens, des militants, des apolitiques, des religieux, des athées, de droite comme de gauche, ont rejeté et ont combattu dans l'ombre la barbarie et les mesures liberticides, pendant que la masse institutionnalisée par la propagande se satisfaisait de sa condition. Le chant des partisans est l'hymne de la résistance française. On nous rabâche qu'on le doit à Joseph Kessel et à son neveu Maurice Druon. Mais ils n'ont fait que reprendre la chanson russe composée par Anna Marley, pseudonyme d'Anna Betulinskaya, une chanteuse et guitariste née à Saint-Pétersbourg en 1917 et qui émigra en France dans les années 20 après l'exécution de son père. En 1941, alors qu'elle s'était engagée comme cantinière dans les forces françaises libres, elle composa sur sa guitare la musique d'un chant qu'elle avait écrit dans sa langue natale. Kessel et Druon reprirent sa musique et s'inspirèrent de ses paroles. Aujourd'hui, combien savent que l'on doit le chant des partisans à cette femme morte en Alaska en 2006 ? Je vous laisse donc sur ce chant interprété par sa créatrice. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.
От леса до леса дорога идет вдоль обрыва. А там высоко где-то месяц плывет торопливо. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. Народные мстители мы отобьем злую силу. Пусть ветер свободы засыплет и нашу могилу. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит.
Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. От леса до леса дорога идет вдоль обрыва. А там высоко где-то месяц плывет торопливо.
Siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier
sur Radio Boomerang 89.7 FM.